Terre à Terre, le magazine de l'environnement, une émission spéciale fête de fin d'année, puisque en guise d'arbre de Noël, nous vous offrons des échos d'un colloque qui s'est tenu à Brive au début du mois d'octobre dernier, les états généraux de l'arbre, autour de Francis Allais, le botaniste et biologiste, auteur de nombreux ouvrages. Ce matin, on commence par une belle histoire, une histoire de filiation. On va prendre des nouvelles de l'arbre, mais on va aussi voir comment les connaissances sur l'arbre se transmettent et s'étoffent ou divergent ou se transforment aussi, puisque nous avons ici Francis Allais, qui est en fait l'un des pères de la réflexion sur l'architecture des arbres. C'était dans les années 60. Et puis Philippe de Réfi, qui est directeur de recherche au CIRAD et qui a repris, prolongé ses recherches et qui dirige un laboratoire international sur ces questions, dans lesquelles il fait largement intervenir les mathématiques et l'informatique. Alors on va peut-être commencer par Francis, qui va nous parler de la façon dont il a abordé cette question de l'architecture. On verra ensuite comment Philippe de Réfi aborde cette même question. Et puis ensuite, on élargira tout ce qui concerne les racines, les champignons, les feuilles, les composés organiques volatiles. Et il y en a d'autres. Mais déjà, un arbre. Pourquoi est-ce qu'on parle d'architecture de l'arbre, Francis ?
Vous savez certainement que l'inné a joué un rôle énorme dans notre botanique moderne. La botanique, c'est contemporain de l'origine de l'homme. Mais l'inné, ça a été quelqu'un de très important qui a donné naissance à la botanique telle qu'on l'entend maintenant, notamment notre terminologie botanique, c'est lui. Je devrais donc être plein de respect et d'admiration pour l'inné. Désolé, je lui en veux. Parce qu'il a orienté la botanique vers l'étude des fleurs et des fruits, c'est-à-dire de la sexualité des plantes. Et encore maintenant, vous ouvrez n'importe quelle revue de botanique, vous allez voir que ça parle de fleurs et de fruits. Quand j'étais étudiant, on nous disait que pour identifier une plante, il fallait nécessairement avoir des fleurs ou des fruits, ou les deux, c'était encore mieux. Et donc j'étais parti sur cette idée-là, typiquement linnéenne. J'ai été nommé en Afrique comme jeune chercheur, et là, surprise, en forêt équatoriale, je ne vois pas de fleurs ni de fruits. Il y en a, bien sûr. Seulement, c'est en haut des arbres, 60 mètres au-dessus de moi, donc je n'y ai pas accès. Donc, comment je fais dans ces conditions pour identifier une plante ? Alors, il y a eu un déclic très important. J'étais dans un village baoulé, dans le centre de la Côte d'Ivoire, et je discutais avec le chef. Et je lui dis, chef, qu'est-ce que c'est que ce grand arbre qu'on voit là-bas ? C'est une espèce de forme en ombrelle, comme ça, comme une énorme ombrelle. Il me dit, c'est un dabéma. Mais je lui dis, chef, comment vous faites pour savoir si c'est un dabéma ou autre chose ? Vous n'avez pas vu les fleurs. Il me dit, les fleurs ? Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre des fleurs ? Et écoute, ça ne l'intéressait pas. Je lui dis, mais est-ce qu'il donne des fleurs au moins cet arbre ? Mais j'en sais rien. Et ça ne l'intéressait pas du tout. Et je lui dis, mais alors vous n'avez donc pas besoin des fleurs pour identifier un dabéma ? Il m'a dit, non, ça se voit que c'est un dabéma. Alors j'ai compris à ce moment-là qu'il y avait deux botaniques. Il y avait celle des Européens, totalement dominée par l'inné, et qui passe nécessairement par la sexualité des plantes. Et puis il y avait celle des gens sur le terrain, par exemple en Afrique. Mais après j'ai retrouvé ça dans beaucoup d'autres pays tropicaux. Les gens des tropiques, ils ne s'occupent pas du tout des fleurs. Ils s'occupent de l'architecture. Et c'est par l'architecture qu'ils reconnaissent les arbres de loin. Ça m'a paru très intéressant. Parce que, ce dabéma avec cette forme en ombrelle, comme ça, je me suis aperçu qu'on retrouvait la même forme dans d'autres arbres. Les albizias, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, il y a sûrement des gens ici qui connaissent ces superbes petits arbres à pompons roses. On retrouve ça chez les acacias, attention, pas les robiniers, les vrais acacias. On retrouve ça chez des jeunes hêtres. Ceux qui s'occupent de jardins auront retrouvé cette forme chez les cotonnets astères. Et ceux qui connaissent le midi l'auront retrouvé chez les mycocouliers. Ces plantes-là n'ont rien à voir les unes avec les autres. Botaniquement, c'est extrêmement différent. Simplement, c'est la même architecture. C'est ce qu'on appelle maintenant le modèle de Troll. Bon, tout le monde voit comment est fait un sapin. Un tronc vertical et des étages de branches horizontales comme ça. Et si vous regardez l'étage par-dessus, vous retrouvez un système rayonnant qui ressemble un peu à un cristal de neige. Eh bien, c'est pareil. Le sapin, vous retrouvez sa forme chez les araucarias de l'hémisphère sud et vous retrouvez cette même forme chez l'arbre qui donne les muscades, le muscadier. Vous le retrouvez également chez le capoquier, chez le fromager, etc., etc. Là non plus, aucune parenté entre ces différents arbres. Ce qui les réunit, c'est leur stratégie de croissance, c'est leur architecture. Le sapin, maintenant, on appelle ça le modèle de Massard. Bon, encore un. Vous voyez comment est fait un jeune pin. Un tronc vertical qui part du sol et qui va jusqu'en haut. Et puis des étages de branches qui sont également verticales. Excusez-moi, l'architecture, c'est terriblement graphique. Mais là, j'ai accepté le défi de vous en parler sans aucune espèce d'image. Les branches de pin, si vous voyez comment ça croît un pin au petit printemps, vous avez vu qu'elles donnent des choses totalement verticale, y compris aux extrémités des branches basses qui sont plus ou moins horizontales à cause de la gravité. Ça, c'est le modèle de Rao. Ça fait trois modèles. Et à partir de ces constatations-là, on a commencé à faire l'inventaire des modèles architecturaux chez les arbres. On est arrivé à 22. On en est à 22. Mais le défi actuel, vous voyez, ça serait de trouver un arbre qui ne tiennent pas dans l'un ou l'autre de ces 22 modèles architecturaux. Ça fait pas mal d'années, plus de 15 ans maintenant, que quels que soient les endroits du monde où on fait de la recherche, on retombe toujours sur l'un de ces 22 modèles. Alors encore une fois, des plantes ayant la même architecture n'ont aucune raison d'être parentes. C'est complètement disjoint. Ça ne traduit pas une parenté. Et à l'inverse, deux plantes très proches, par exemple deux espèces d'un même genre, peuvent avoir des architectures très différentes. Donc ça se comporte de façon un peu surprenante pour celui qui s'intéresse à l'évolution des plantes. Ça ne traduit pas des liens de parenté, ça traduit des niveaux évolutifs. L'idée qui s'impose petit à petit, mais on est encore très très loin d'avoir trouvé la solution à tout ça, c'est qu'il y a des modèles primitifs. Et à mesure que l'évolution se déroule, il y a une séquence de modèles qui se déroule aussi. Il s'ajoute à ça la question de la réitération. La réitération, c'est le fait pour un jeune arbre de pousser sur un vieil arbre. Il faut nous faire à cette idée tout à fait étrange. Il faut s'adapter à cette idée qu'un jeune arbre peut pousser sur un vieil arbre. Il ne s'agit pas d'une graine qui germe. Il s'agit d'une nouvelle copie du modèle qui pousse sur une ancienne copie du modèle. C'est ce qu'on appelle la réitération. C'est à peu près répétition, si vous voulez. Chez pas mal d'arbres, et notamment les plus anciens, il n'y a pas de réitération. C'est-à-dire qu'il y a un modèle qui se déroule pendant toute la vie de l'arbre. Il n'intervient rien d'autre. Si vous prenez un palmier, par exemple, eh bien, un jeune palmier, un palmier de taille moyenne et un grand palmier, c'est strictement la même image. C'est seulement la hauteur du tronc qui va changer. Si vous prenez un araucaria, je pense que tout le monde connaît ce genre extraordinaire. On le voit notamment dans l'ouest de la France, en Normandie, en Bretagne, etc. Eh bien, un araucaria moyen qui a déjà 20 mètres ou un araucaria très grand qui a 40 mètres, c'est la même forme. Ces plantes-là n'ont pas de réitération et nous les qualifions d'arbres unitaires. Ça, c'est la solution ancienne. Les recherches sur les plantes fossiles nous ont donné des quantités d'éléments sur les arbres anciens. Ils sont tous unitaires. La réitération n'était pas inventée. Il faut donc comprendre que cette réitération, c'est un progrès. C'est un stade plus récent et qui correspond à un progrès dans le fonctionnement de l'arbre. Ceux qui ne sont pas unitaires sont qualifiés d'arbres colonnières. et l'énorme majorité des arbres, et notamment tous ceux qui nous entourent en Europe, sont des arbres coloniaires. C'est-à-dire que le modèle architectural ne s'exprime pas une seule fois, mais il s'exprime de très nombreuses fois, des centaines de fois, des milliers de fois, peut-être des centaines de milliers de fois. Et donc l'arbre devient une colonie. C'est un des charmes de la botanique que des spectacles extraordinairement habituels doivent nous intéresser. Il faut, dans le fond, dans cette discipline-là, la mienne, il faut arriver à s'arracher le masque des habitudes qu'on a devant les yeux presque en permanence. Tout le monde voit un tronc d'un vieux chêne avec une petite brindille qui pousse dessus et on voit bien que c'est un jeune chêne. Eh bien, aucun animal n'est capable de faire ça. Vous ne voyez pas une sauterelle avec une jeune sauterelle qui lui pousserait sur l'abdomen. Et si moi, j'avais un petit homme qui me pousse au milieu, ça attirerait sans doute votre attention. Mais les animaux ne sont pas capables de ça. C'est typique des plantes. Seulement, les plantes, voilà, elles sont tellement discrètes. Elles parlent si peu. Elles sont tellement immobiles. On les voit tellement tous les jours qu'on n'arrive plus à s'étonner de ce qu'elles nous montrent et qui sont parfois des choses tout à fait étonnantes. La possibilité pour un jeune arbre de pousser sur un vieil arbre, ça c'est quelque chose d'étonnant. Et ça donne naissance à la coloniarité et ça donne naissance aux arbres modernes qui sont ceux qui nous entourent. Ce n'est pas très compliqué de voir apparaître un jeune arbre sur un vieil arbre. Prenez l'une de ces brutasses délagueurs qu'on voit encore, hélas, de temps en temps. Je ne parle pas pour ceux qui sont dans cette salle, qui sont des gens très civilisés. Mais j'en connais qui sont capables de prendre un grand platane et de couper en dessous des branches les plus basses, de sorte que le platane, il prend la forme d'une colonne isolée. Voilà, ça existe encore. Eh bien, sur le sommet de cette colonne, vous allez voir pousser des petits platanes. Ce sont réellement des petits platanes. Si on en descend un, on ne verra pas de différence avec ce qu'on aurait à partir d'une graine. Alors la jonction entre la colonne initiale et les petits platanes qui poussent en haut, c'est une jonction qui est très peu solide, mécaniquement très faible. Je tiens à dire aux élus qui s'occupent des arbres que tailler un arbre, élaguer un arbre, de façon abusive, c'est le meilleur moyen de le rendre dangereux. Sur les arbres coloniaires, je pense que Philippe nous montrera des photos ou peut-être des films. Et voilà, je voulais vous dire pour terminer qu'on est devant deux sortes d'arbres, les unitaires et les coloniaires. Et je pense que c'est une distinction suffisamment importante pour que tout le monde, je crois, doive l'acquérir.
Et Philippe de Réfi va reprendre pratiquement là où on s'est arrêté, ou alors est-ce qu'on fait un saut immédiat ?
Je vais essayer d'illustrer les propos de Francis par des diapositives. D'abord, peut-être vous montrer ce que Francis appelle les modèles architecturaux. Vous voyez ici, par exemple, un modèle architectural qui est un empilement d'axes qui se terminent tous par une floraison et qui réitère en fabriquant des modules similaires. Donc, vous avez plein d'arbres qui poussent comme ça. Moi, je connais le frangipanier, bien sûr, le manioc, le lilas, voilà. Voilà ce que font les ordinateurs, vous voyez. C'est en se basant sur les théories de Francis. Eh bien, l'informaticien arrive à y guider pour ces simulations. Il y a un proverbe baoulé en Afrique qui dit « Quand la chèvre est là, il ne faut pas bêler à sa place ». Donc, je propose que tu commentes toi-même.
Ouais, ça, c'est un peu comme le modèle précédent, sauf qu'il est déséquilibré. Un coup à droite, un coup à gauche, ce qui lui permet de pousser et de faire un tronc éventuellement très haut. L'ennui, c'est qu'il n'y a pas d'espèce européenne poussant selon le modèle de Corriba. Je suis désolé. Il y a le balsa. Sans doute, vous connaissez le balsa. Cet arbre, on peut mettre le tronc sur son dos parce que ça ne pèse rien.
Donc, l'ordinateur fait très bien un modèle de Corriba, mais vous croyez voir un tronc ici. Mais en fait, il est entièrement sympodial.
C'est ça. C'est des éléments bout à bout. Ce n'est pas un tronc régulier. Enfin, ce n'est pas un tronc monopodial, comme disent les botanistes. Eh bien, ça, c'est celui de Rao dont j'ai parlé. Ça rend compte aussi bien de la croissance d'un pin que de la croissance d'un chêne. Or, voyez, entre un pin et un chêne, il y a un gouffre sur le plan de l'évolution. Ça n'a rien à voir. C'est simplement que ces deux arbres-là ont adopté le même système de croissance, le même programme au sens informatique de ce terme. Et donc, ils finissent par se ressembler.
Alors, des arbres comme ça, par exemple, dans les années 90, il nous fallait une heure et demie pour les construire et sur un ordinateur. Et après l'an 2000, après mon passage en Chine, où on a transformé la simulation en équation, il nous fallait moins d'une seconde. Ce n'était pas un progrès des processeurs, c'était un progrès dans la compréhension des mathématiques sur l'arbre. Donc les gros progrès qui ont été faits dans la simulation des plantes, ça a été de remplacer la simulation par des formules mathématiques qui font la même chose.
Quand tu parles de construire l'arbre, je trouve que le terme est un peu exagéré. Tu ne construis pas l'arbre, tu construis son image.
C'est ça, oui. Bon, ici, vous avez donc, avant de passer à la suite, donc la première chose que j'ai demandé à nos programmes informatiques, c'est d'être capable de dessiner tous les modèles de Francis Allais. Hein. Et donc, évidemment, c'est lui qui a été à l'origine de toute l'architecture informatique des plantes, en tout cas en France, dans les équipes que j'ai dirigées, et aussi en Chine, qui connaissent très bien, évidemment, tous les modèles, les gens avec qui j'ai travaillé en Chine. Il y en a beaucoup plus qu'en France, hein, parce que la Chine n'est plus... Et là-bas, c'est tout à fait connu, quoi. Alors, je vais vous montrer maintenant d'autres aspects des arbres. La représentation des arbres, évidemment, c'est, un problème pictural. Hein. Il faut dessiner les plantes. Donc, les peintres, il y a eu de très grands peintres qui ont fait des choses extrêmement réalistes. Bah, j'ai trouvé, par exemple, sur le web, cette image que je trouve extraordinaire. Hein. C'est presque une qualité photographique dans la description. Et puis, vous prenez Van Gogh, il vous fait des... Je pense que ce sont des amandiers, j'en suis pas sûr d'ailleurs. Hein. Mais il n'y a aucun détail botanique là-dedans. Il vous donne une ressemblance, c'est un peu l'histoire du chef Baoulé, qui reconnaît très bien un arbre. C'est mystérieux, on ne sait pas comment il fait. Mais les grands peintres ont réussi, sans connaître du tout la botanique, à donner une représentation qui permet d'identifier les plantes. À Montpellier, on a Basile, quand il fait des pins d'Alep, on sait que c'est des pins d'Alep, ce n'est pas des pins noirs d'Autriche. Hein. Alors, il y a deux aspects dans l'arbre. Il y a un aspect développement. Alors, Clint, par exemple, il vous montre très bien ce que c'est que le développement. C'est des axes qui vont un peu dans tous les sens. Et puis, Clint, il va s'intéresser plus à la répartition de la biomasse. Hein. Et c'est vraiment ça le problème. C'est qu'il faut faire coïncider en même temps le développement et la croissance. Alors, le développement, c'est vraiment de la botanique, c'est de l'architecture. Mais la croissance, eh ben, ça devient de l'écophysiologie, c'est-à-dire que c'est de la lumière interceptée, du carbone absorbé et de la répartition de la biomasse dans toute la plante. Et il faut construire la plante avec ça. Donc, vous voyez, ces deux aspects, les peintres aussi les ont. Alors, il y a un type extraordinaire qui s'appelle Magritte, hein, qui a fait des arbres mathématiques sans être mathématicien. Hein. Et quand on voit ces arbres, c'est assez étonnant, quoi. Je veux dire, il est assez époustouflant. Et quand on regarde dans les ouvrages de botanique, hein, ben, en fait, on n'a aucune information vraiment sur la structure de l'arbre. Là, c'est une très belle encyclopédie botanique japonaise. Quand ils font des détails, c'est époustouflant. Mais quand ils font l'architecture, on ne la comprend pas. C'est-à-dire que moi, si je vois cet arbre-là, je ne peux pas le comprendre. Et les modèles architecturaux de Francis permettent d'avoir une lecture du développement des plantes. Par exemple, quand je vois les schémas de Francis tirés d'un livre qu'il a fait sur... eh bien moi, immédiatement, il me faut à peu près 20 minutes pour vous dessiner cette plante-là sur un ordinateur. Parce que j'ai toutes les instructions de ramification, d'avortement, de mise à fleur qui sont suffisantes pour programmer le programme du développement. Et ça, ça a été très important. Ça a permis la jonction avec les informaticiens. Donc, il ne s'agit pas ici de faire des plantes réalistes, mais des schémas qui donnent le développement de la plante, que vous ne voyez pas quand vous faites une photo. On ne voit rien du tout. Et l'analyse architecturale, dont Francis a été le pionnier, permet ensuite aux informaticiens de développer les algorithmes qui permettent de dessiner ces choses-là. Quand on veut vendre un Airbus, bah d'abord on va le dessiner avec un ordinateur, mais avec très peu de détails, mais il va être très joli, il va voler, il va traverser les nuages, il va y avoir des reflets de la lune dessus la nuit, etc. Ça, c'est pour faire du tape à l'œil. Puis par derrière, il y a des énormes bases de données qui vont construire l'avion avec tous les boulons. Donc c'est assez différent. Donc on peut dire que dans le laboratoire, bah on a les deux aspects. On fait de l'architecture pour être utilisé dans le paysagisme par les architectes, etc. Et puis quand on fait des betteraves, c'est pour avoir le bon poids de la betterave et la bonne surface foliaire. C'est des choses différentes, hein, mais qui sont tout à fait complémentaires. Donc il s'agit ici d'une simulation d'un paysage languedocien. Le logiciel a été fait par une boîte que le CIRAD a créée qui s'appelle Bionatics et qui utilise la librairie du CIRAD pour faire des places, des jardins, des grands aménagements, voyez. Et ces logiciels sont connectés avec des grands systèmes d'information géographique où tout est décrit. Et les plantations se font selon les instructions du système d'information géographique. Donc ça couvre des milliers d'hectares et les décideurs sont capables donc de voir l'impact sur le paysage de tel ou tel type de stratégie.
Donc, c'est Jean-Christophe Bailly qui va reprendre la parole directement et ensuite nous discuterons.
Pas du tout pour vous la confisquer, mais comme je suis censé intervenir, j'espère intervenir, disons, comme l'un d'entre vous. Donc, j'aurais deux remarques à faire, une très, très, très rapide sur l'inné, pour rappeler quand même que l'inné, à son époque, de parler de sexualité des plantes, c'était une invention qui n'était pas très facile dans le contexte idéologique, religieux de l'époque, pour lui restituer quand même un certain mérite, et aussi pour restituer autre chose, c'est-à-dire qu'on l'accuse éventuellement, ce qui n'est pas du tout votre cas, d'être le représentant presque idéal de ce qu'il peut y avoir de contestable dans les Lumières, à savoir la classification, le rangement, etc. Sans doute est-ce vrai, cela dit, ce rangement a été formidable. Hein, c'est pas quelqu'un qui faisait le ménage, c'est quelqu'un qui était dans l'enthousiasme de la découverte. Et pour ce que j'en sais, enfin, ayant lu le formidable livre qui est son journal de voyage en Laponie, c'est merveilleux d'être avec lui, quoi. Il donne la recette du fromage de Rennes. La page suivante, il se précipite pour découvrir une petite plantule qu'il n'avait pas encore connue. Et puis, il s'adresse à elle. Il parle latin couramment. Donc, il dit, excusez-moi, je ne connais pas le nom des plantes arctiques par cœur, mais je vais en inventer un. Ce matin, je me suis réveillé de bonne heure lorsque soudain, mon œil est tombé sur Fuligina urticans. Et puis, il se met à développer une phrase en latin. Et puis, c'est tout comme ça. C'est assez extraordinaire. Et ce qui est formidable, c'est que justement, on est dans une logique de foisonnement. Et je pense que cette contradiction entre les logiques de foisonnement, qui ne sont peut-être pas des logiques, enfin, ces apparitions foisonnantes sous lesquelles le végétal se livre à nous, il y a non pas une contradiction, mais quand même une rupture de charge, si on pouvait dire, entre ça et le descriptif et les modèles. Et j'en arrive à ma deuxième remarque, qui sera un petit peu plus longue, et qui s'adresse dans un premier temps plutôt à vous, monsieur Allais, ensuite plutôt à vous, c'est que toujours lorsqu'on arrive à des réductions que sont les modèles, évidemment, il y a une joie constructive, même une joie constructiviste, c'est une joie d'intelligibilité qui est formidable. Et j'ai pensé à cela à cause du chiffre de 22, c'est presque les 26 lettres de l'alphabet, et c'est d'ailleurs c'est le nombre de lettres de l'alphabet italien qui est la version la plus économique de nos alphabets. Évidemment, il s'agit surtout pas d'un alphabet puisque la combinatoire elle n'est pas à l'intérieur d'une plante, mais elle est dans la totalité du monde des arbres. Cela dit, ce qui est riche d'un alphabet, c'est pas telle lettre en particulier, c'est les possibilités combinatoires. Et pour un arbre qui va charger un seul type constructif, on va avoir une infinité d'individus. Et ce que je trouve un petit peu, non pas dangereux, mais je pense qu'il faut le garder à l'esprit en permanence, c'est que si la réitération, d'une certaine manière, se réitère d'un arbre à l'autre, elle ne se réitère pas de façon identique. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ça qu'il faut toujours garder à l'esprit, je crois. Et ce qui veut dire qu'au fond, si on crée un espace, quel qu'il soit, ce n'est pas une nurserie de modèles. c'est une population d'individus singuliers. Et chacun de ces individus, chaque arbre, chaque plante, et notamment chaque arbre, il va avoir une histoire, il va avoir une biographie bien à lui. Telle exposition à la lumière, tel problème qu'il va le rencontrer, tel élagueur borné ou pas, etc., tel souriceau, etc., de sa plus petite enfance à, disons, sa quasi-immortalité, l'arbre, le sujet, va rencontrer toute une série d'accidents, exactement comme nous, exactement comme tout ce qui est vivant. Et j'insiste beaucoup sur cette notion-là. Je me souviens d'un texte très joli de Gilles Clément, dans lequel il raconte qu'il marche pieds nus sur une prairie, et il dit « Je pris soudain la conscience de marcher sur une population. » C'est-à-dire que sa plante des pieds identifie le plantain, identifie telle sorte d'herbe, etc., avec une compétence que peut-être la plupart de nous n'aurions pas. Mais quand même, c'est ça aussi. C'est la relation qu'on a avec les arbres. On a à chaque fois une relation avec quelqu'un, et pas avec un type, et pas avec un modèle. Et il y a quand même un danger, parce qu'à la fin de la modélisation, on passe assez vite au catalogue, et on peut passer assez vite, comme je crois on l'a un peu, je l'ai un peu redouté de le pressentir à la fin de votre démonstration, monsieur de Réfi, on passe quasiment au catalogue de vente, hein, pour jardinerie. Et là, il y a quand même, je trouve, un petit danger. Et je peux, si je peux me permettre aussi, je ne pense pas que l'artiste italien, qui est un des plus grands artistes vivants, s'appelle Giuseppe Pennone, je ne trouve pas juste, si vous voulez, qu'on dise qu'il s'est amusé à faire ça. Premièrement, il travaille sur les arbres depuis 40 ou 50 ans. Deuxièmement, ça lui a pris plusieurs mois pour faire ce travail-là. Et troisièmement, c'est justement quelqu'un qui travaille sur la biographie des plantes, dont toutes les sculptures, on peut les analyser et les définir comme des histoires de temps et comme justement non pas des réalisations de modèles, mais comme des écritures spécifiques. Hein. Ce n'est pas l'œuvre pour lui qui est importante, c'est ce qu'elle raconte de l'origine, c'est-à-dire de son point d'origine, en l'occurrence les arbres, des fois ça peut être des pierres, des fois ça peut être autre chose, mais c'est cela. Et donc en réinscrivant les arbres dans leur temporalité et en montrant comment l'arbre est lui-même un narrateur, d'une certaine façon, c'est ça que fait... C'est ça le travail de Pennone. Voilà, juste une petite correction, mais elle va dans le même sens de ce que je voulais dire. Et il ne s'agit pas, je crois, d'un conflit, mais c'est juste un rappel.
Vous allez peut-être répondre l'un et l'autre. Francis, d'abord ?
Oui, ça m'intéresse. Je reviens à Linné.
Francis Allais.
J'ai la plus grande admiration pour Linné, j'ai oublié de dire ça, mais c'est évidemment quelqu'un dont on ne peut pas se passer en botanique. Simplement, je maintiens qu'il a orienté la botanique vers l'étude des organes sexuels, ce qui était très audacieux à son époque. Mais je me dis, qu'est-ce que serait un anthropologue qui ne s'occuperait que des organes sexuels de l'être humain ? Oui, sans doute, il y en a. Sans doute pas les meilleurs. Sans doute pas les meilleurs. Je reviens, monsieur Bailly, sur votre terme d'individu. Désolé, mais un arbre, ce n'est pas un individu. Je sais que ce mot-là est très fréquemment utilisé, notamment par les amis forestiers. Mais ce n'est pas un individu, parce qu'un individu, c'est indivisible. Or, un arbre, je peux le diviser. Si vous me donnez un sécateur et un temps suffisant, à partir d'un arbre, on peut en faire des milliers. C'est divisible. Ce ne sont donc pas des individus. C'est autre chose. Et là aussi, notre langage me paraît court. Voilà.
Non, je suis tout à fait d'accord, mais c'est un problème là, strictement philosophique. À partir de quand peut-on parler d'individu ?
Un individu, si je le coupe en deux moitiés égales, c'est terminé.
Philippe de Réfi ? Sur le catalogue, peut-être ?
Moi, je pense, j'ai une formation d'ingénieur, hein, je pense que la science doit arriver, la recherche doit aboutir à la technologie. Et la technologie, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait ensuite... des emplois dans l'industrie, hein, et c'est toute une chaîne. Donc une science qui resterait dans une espèce de cénacle et qui ne communiquerait pas, a certes une valeur morale, etc., mais il existe aussi une science appliquée que je trouve très estimable et qui font que par les découvertes qu'ont fait par exemple tous les grands physiciens, Fresnel, Newton, etc., qu'ils ont fait, nous ont donné ensuite plus de pouvoir sur la nature, nous ont créé des emplois, nous ont créé de nouveaux outils, etc. Et la vocation de l'ingénieur, c'est ça, c'est de mettre à la technologie les découvertes fondamentales qui sont faites par ailleurs. Donc, par exemple, je pense que Francis n'aurait pas supposé que ces modèles architecturaux, maintenant, étaient disséminés dans les logiciels d'image de synthèse. Mais je ne pense pas que ça te donne des boutons et que tu es au contraire satisfait de voir que des connaissances qui ont été faites dans la forêt tropicale eh bien, trouvent un usage. C'était tout à fait inattendu et on trouve toujours, en fait, des gens, souvent, ce n'est pas les mêmes hein, qui trouvent les applications, c'est d'autres personnes qui sont extérieures et qui font le lien.
Écoute, monsieur.
Oui.
Et après, ça sera vous au fond.
Jean-Luc Perrière, je suis éducateur spécialisé. Tout à l'heure, monsieur Allais, vous avez parlé de la facilité de reproduire des individus. Et moi, je voudrais que vous évoquiez la grande facilité que les hommes ont, en tout cas en Europe, reproduit les arbres identiques pour en faire des forêts identiques. Et qu'est-ce que ça donne, cette reproduction qui est facile du végétal quelles sont les conséquences de cette grande reproduction des mêmes individus?
Non, si je comprends bien, c'est plus que de la monoculture que vous voulez parler, c'est du clonage. Voilà, on voit par exemple des forêts clonales d'eucalyptus. C'est extrêmement impressionnant parce qu'à perte de vue, vous avez bien sûr la même espèce, mais ça va plus loin que ça. C'est le même arbre qui se répète. Je trouve ça dangereux pour des raisons sanitaires. Voilà. Si un parasite se plaît, un parasite ou un pathogène se plaît sur cette forme-là, évidemment, il n'y a plus de limite, parce qu'il se plaira sur tous les arbres de la rangée. D'ailleurs, la nature elle-même évite soigneusement ce genre de réalisation. On ne trouve pas ça dans la nature. On trouve au contraire une très haute variabilité que je crois on peut interpréter comme une manière de résister aux attaques. Voilà, mon opinion est plutôt négative sur ce clonage de l'arbre.
Question ? Oui, Caroline Molly au premier rang.
Je reviendrai sur cette question du catalogue. C'est vrai que dans la conception des espaces végétaux dans la ville, tous les projets urbains et tout ça, les catalogues de végétaux préfabriqués, si je puis dire, sont extraordinaires comme outil de conception. Mais en même temps, il y a un effet pervers qui est extrêmement grave à mon point de vue. C'est le fait que les concepteurs vont chercher l'arbre terminé, l'arbre grand, pour faire des images flatteuses, pour vendre leur projet. Et qu'une fois que le projet est mis en œuvre, on s'aperçoit que ces grands arbres n'existent pas et qu'ils ont la taille d'un petit balai. Et ça enclenche des stress terribles, ça enclenche des plantations de gros sujets, c'est-à-dire qu'on va chercher en Espagne des oliviers bicentenaires pour les mettre à la place. Enfin bon, il y a une espèce de négation actuellement du temps de croissance de l'arbre dans la ville. Bon, c'est un autre sujet, mais si vous voulez, le catalogue de ces arbres, à mon avis, était assez mal exploité. Donc, je plaiderais en faveur d'une... Ce qui est formidable au CIRAD, comme vous le dites, par rapport aux autres banques de données, c'est que vous avez ce système de croissance vrai et que vous ne vendiez dans vos catalogues que des arbres de pépinière avec le logiciel derrière pour les faire pousser devant monsieur le maire, mais montrer que ça commence petit et que ça se termine grand et que ça n'est pas planté tout de suite grand. Donc c'est une de mes revendications extrêmement, je dirais presque violente par rapport à l'arbre en ville, c'est que cette négation du temps, elle est presque malheureusement confortée par par ces banques de données images.
On va prendre une autre question au fond, oui, puis ensuite il y en aura une devant.
Oui, Michel Lapeyre, je travaille donc à la direction des espaces verts et donc auteur de la charte de l'arbre. Donc je pense qu'il faudrait quand même arrêter de taper un petit peu sur les services communaux. Il y a quand même une prise de conscience qui s'est faite depuis une vingtaine d'années grâce à des personnes comme Caroline Mollier. Donc on avance pas à pas, c'est pas très rapide. Il y a effectivement un changement d'habitude qui doit se faire. Elles se font. Quand on a des plans qui nous arrivent sur des gros travaux, où les architectes paysagistes vont imposer des essences qui n'ont strictement rien à y faire dans ces chantiers-là et que nous, direction des espaces verts, on nous demande de donner notre réponse en 24 heures, et qu'on n'a même pas le temps vraiment de dire pourquoi il n'est pas utile de mettre ce type d'essence. Donc il y a quand même des problèmes aussi entre ceux qui présentent les projets et puis les petits directeurs ou techniciens des espaces verts. Voilà.
Elisabeth Chenot, aide-soignante d'Orléans. Je reviens à ce qu'a dit M. Allais et M. Bailly tout à l'heure. M. Bailly parlait d'âme, d'êtres vivants qui ont une âme. Et puis M. Bailly parlait d'appartenance de l'homme par rapport à son environnement et ce qui l'entoure, la nature. Ça me rappelle des attitudes d'Indiens d'Amérique du Nord qui allaient parler à l'arbre qu'il allait abattre. De la même façon qu'il allait parler ou s'excuser par rapport à la bête qu'il allait tuer. Et il y a quelque chose qui touche. Il y a une forme, un respect du vivant qu'on a oublié aujourd'hui. Alors on ne peut pas non plus dire bon, chaque arbre, on va présenter ses excuses, dire pourquoi on l'abat. Mais ce respect-là, il est fondamental et il s'inscrit dans notre vivant, dans tout le vivant qui nous entoure. Et il serait bon qu'il soit remis à l'honneur aujourd'hui. Voilà.
En ce qui concerne le respect du vivant, je suis entièrement d'accord avec vous. Bien entendu, je voudrais dire que je n'arrêterai pas de rouspéter contre les gens qui s'occupent très mal des espaces verts dans les villes. Je veux bien faire des exceptions pour Brive-la-Gaillarde, ok, mais ce que je vois dans l'Europe entière m'incite à rouspéter. Le respect n'est pas là. Voilà. Alors le respect, je suis entièrement d'accord avec vous, madame. Il nous faut réintroduire le respect dans nos relations avec l'arbre. Ceci étant, je ne pense pas que ce soit la bonne manière de respecter l'arbre que de lui prêter nos propres oripeaux. Vous voyez, de le déguiser en être humain d'une manière, de lui prêter une âme ou des choses comme ça. Non, là, je ne vous suis pas. Je crois qu'il faut un respect indépendamment de ces images-là avec lesquelles je ne peux pas pactiser.
Alors, Alain Canet.
J'irai même plus loin. Je pense qu'on fait un transfert de pathologie sur les arbres, puisqu'on les engraisse, on les arrose et on les traite, alors qu'ils n'ont rien demandé. Et je pense que ça, c'est assez inquiétant aujourd'hui de penser qu'un arbre a besoin d'être traité, arrosé, labouré ou je ne sais quoi. Et ça pose une question cruelle, me semble-t-il. Et je crois qu'il y a vraiment un gros transfert là-dessus, en pensant qu'un arbre, ça a besoin de médicaments. Et ça, c'est absolument dramatique. Un arbre, ça ne se plante quasiment pas, ça sème ou ça se laisse pousser avant tout. En ville comme à la campagne, puisqu'on ne parle pas beaucoup de forêt aujourd'hui, je crois qu'il faut être très très prudent là-dessus. Les arbres qu'on va utiliser dans les villes demain, ils n'existent pas encore. Aujourd'hui, nous n'avons que des variétés horticoles, des trucs trafiqués, bouturés, pleines d'hybridation et de problèmes. Les arbres dont on a besoin, ils n'existent pas, puisqu'il faudra qu'ils poussent tout seuls. Et heureusement d'ailleurs, tout comme ces chênes qui poussent sur ce banc calcaire. À un moment donné, il faut être un peu modeste et prudent. Arrêter de penser que nos engrais vont satisfaire aux besoins des arbres. Ils souffrent de l'excès, ces arbres-là. Pour rester sur le modèle, je me dois de rappeler quand même que les modèles sont extrêmement importants. Les modèles sont des outils d'aide à la décision parfaite. Les modèles, ça ne s'applique pas. Les modèles, ça sert juste à comprendre ce qui peut se passer. Imaginez qu'on va planter un arbre avec un ordinateur, c'est du grand banditisme. Mais le problème, c'est juste l'ordinateur, il faut l'associer à la compétence. Aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est de compétence. Peut-être un peu de modestie, mais moi, je pense qu'on a besoin de compétence pour planter des arbres en ville ou ailleurs, ou les laisser pousser. C'est pas l'ordinateur qui va faire le boulot, c'est pas le modèle. C'est juste des gens qui vont savoir, à un moment donné, quels besoins, quels usages, quels projets on va mettre en œuvre. L'ordinateur aidera, à un moment donné, à faire des choses. Moi, j'aime beaucoup les ordinateurs. On voit que dans certaines zones, il y a autant d'arbres dans la forêt que hors forêt. Donc, ça nous permet de dire, bah, tiens, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Il y a des manques, il y a des... Mais c'est tout. Il faut juste qu'on apprenne à les connaître. On plante aujourd'hui des arbres qui n'existent pas. C'est un fantasme. On a trafiqué des arbres. On n'est pas capable, je crois que ça a été un petit peu dit, de voir ce qu'on a sous nos pieds.
Oui, je voulais revenir sur le paradoxe, en fin de compte, que l'on voit très bien derrière cette table, entre une science descriptive, une science technologique de l'ingénieur, et puis la philosophie qui essaie de faire passer son message de la complexité et de la réflexion plus générale sur les sujets. Il a été dit tout à l'heure au sujet des architectes que les architectes ne travaillaient que sur de la matière morte et ne s'occupaient pas de vivants. Je vous avoue que j'ai fait un bond de 10 cm au-dessus de ma chaise et que si on avait connu cette horreur urbaine pendant 3 ou 4 décennies sur les grands ensembles, etc., on était bien là encore sur ce paradoxe entre la technologie qui ferait une sorte d'optimum productif à l'instant T. On le voit aujourd'hui dans la forêt, alors beaucoup ailleurs sur la planète, mais la modélisation d'espace en termes de monoculture et d'optimum productif, il suffit de monter sur le plateau de 1000 vaches, sur les étendues de Douglas, tous d'une tranche d'âge relativement compacte, pour voir la problématique. Et du coup, la philosophie politique et le choix politique qui est porté par tous devraient avoir plus de place là-dedans, parce que ce sont vraiment des choix qu'on fait sur l'avenir, de savoir est-ce que l'optimum productif, les emplois que vous citiez justement, c'est vrai que l'économie, les emplois ont leur importance, mais il y a derrière aussi une réflexion à avoir sur la durabilité de ces modèles, sur le respect de la biodiversité qui évite justement ce danger de voir apparaître des nouvelles maladies ou des maladies qui s'adaptent à une espèce particulière et qui viendraient ruiner tous les efforts faits par l'ensemble de la société. Je pense que là, il y a vraiment un thème très important à discuter, de savoir qu'est-ce qu'on veut faire en réalité. Et en prenant compte, évidemment, de l'apport des uns et des autres.
Philippe Dreyfus.
On va dire qu'il y a quand même des problématiques très différentes. Alors, je ne suis pas paysagiste, mais je pense que l'arbre en ville, c'est un arbre d'agrément. C'est-à-dire qu'on n'attend pas du tout de l'arbre en ville ce qu'on attend dans une placette forestière. Donc, il n'y a pas de compétition là-dessus. Les architectes paysagistes doivent travailler sur le paysage d'agrément avec des espèces très particulières. Et puis, celui qui a une placette forestière, il essaye d'avoir le maximum de bois. Et pour peu qu'on n'aille pas dans cette placette, on ne sera pas chagriné de voir que tous les arbres ont la même hauteur. Je veux dire, vous voyez, c'est deux problématiques complètement différentes. La production végétale et l'ornementation, ce n'est pas les mêmes buts.
Juste un mot là-dessus. Alors, il ne me semble pas que c'était la question que posait monsieur, justement. Non, il posait une question de politique générale. Donc, par définition, une politique générale, elle a des cas de figure différents selon les lieux, selon les arbres, selon les fonctions. Mais justement, ce que je crois possible, et pas du tout en dressant les sciences contre les arts, etc., dans des manières qu'aucun d'entre nous souhaite ici, je pense, mais parmi vous non plus, mais simplement d'essayer de faire concourir toutes ces approches pour arriver, entre guillemets, à une politique de l'arbre, et pas seulement de l'arbre en ville, une politique générale et générique qui tiendrait compte justement de tout ce qu'on peut tirer de l'arbre, mais pas simplement sur le plan économique. C'est pourquoi moi je pense que c'est même pas juste d'employer le mot d'agrément, parce que le mot d'agrément, il correspond à une civilisation du loisir qui est périmée. Hein, et on peut dire que tout arbre est d'agrément, d'une certaine manière. Ça veut dire, agrément, ça veut dire trouver du plaisir à la rencontre avec quelque chose. On doit trouver du plaisir à la rencontre avec quelque chose, y compris avec des pommiers, avec des oliviers qui sont exploités pour leurs fruits. Or, justement, ce que l'on pourrait apercevoir à l'issue de réunions comme celle-ci, pas forcément celle de ce matin, mais celle de l'année dernière, etc., c'est que pourrait très bien concourir ensemble, justement au nom de la fonctionnalité la plus grande, bizarrement, les intérêts esthétiques, affectifs et économiques de l'arbre. Et je crois que, mais pour que cette politique-là soit appliquée, là, on entre directement dans des remises en cause de politiques au niveau national, régional, européen et mondial. Et donc là, à chacun d'aller dans le sens qu'il veut, mais on voit bien que globalement, malheureusement, les indications de tendance ne sont pas favorables à cette approche sympathique de l'arbre.
On vous écoute.
Bonjour, je suis architecte paysagiste et je rebondis un peu sur ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure. On est plein de professions différentes à travailler sur l'arbre, à travailler sur le paysage, sur l'aménagement de la ville. Et on a l'impression que chacun travaille dans son coin. Alors, bon, je ne sais pas comment mes confrères travaillent, mais à chaque fois que j'ai une intervention à faire, ben, je travaille avec une multitude de gens en réseau qui sont tous spécialisés. Il y a l'ingénieur paysagiste, il y a la personne responsable des services techniques de la ville, il y a la personne responsable de l'entretien. Et je lui donne un objectif concernant les végétaux à mettre en place. Et puis après, ben, j'écoute tout le monde. Donc on s'écoute, il y a un échange qui se crée. Ça permet d'avancer. Et je ne dis pas que ça permet de trouver la meilleure solution, mais ça permet de tendre vers une solution qui permet à ces arbres de croître normalement dans un milieu urbain. Donc voilà, je crois que c'est vraiment, et c'est Jean-Claude Bailly, là, je crois qu'on parlait tout à l'heure, on est plein de professions, mais il faut apprendre à travailler ensemble et à s'écouter, et puis on avance tous dans le même sens. Voilà, ce n'était pas forcément une question. Hein.
Non, ce n'est pas forcément une question, mais ce qui est curieux, c'est que je trouve que c'est les deux dernières interventions, là, dessinent une inquiétude qu'on connaît en fait bien. Il y a l'inquiétude sur le sort des arbres. Une question que je t'ai jamais posée, Francis. Tu avais écrit un livre qui s'appelait Éloge de la plante, et puis ensuite il y en a eu un autre qui s'appelait Plaidoyer pour l'arbre. Et moi, ça m'a toujours étonnée parce que la plante petite, fragile, l'arbre qui a l'air si puissant, et le plaidoyer, c'était pour l'arbre plus que pour la plante. Donc ça, c'est l'inquiétude qui concerne les arbres. Et puis les hommes, les humains, se sentent assez volontiers attaqués, vilipendés, accusés. Sur la question des arbres, et on l'a senti à plusieurs reprises d'ailleurs au cours de la matinée. Donc voilà. Francis ?
Je constate de plus en plus souvent des mouvements de prévention vis-à-vis de la démarche scientifique. Il y a des gens qui me disent « mais arrête, il vaut mieux que ça reste dans l'inconnu ». Je le dis comme je l'entends, hein, et je sens cette inquiétude dans ce que vous dites là. Comme si le fait de connaître, c'était déjà une manière de détruire. Je suis désolé, je ne le sens pas comme ça. J'arrêterai pas de faire de la recherche. J'en ai plus pour très longtemps.
Jean-Christophe. Non, il faut être bien clair. Hein. Je ne pense pas du tout que les inquiétudes, en l'occurrence, qui se manifestent ici et là, elles peuvent prendre, je crois, de façon assez maladroite, cette forme-là. Ce qu'on essaye de trouver, ce n'est pas d'être contre la conceptualisation, on essaye de trouver la bonne conceptualisation. Donc il y a des outils conceptuels différents. On peut même dire d'une certaine façon, même si ce n'est pas la façon traditionnelle de penser, ça m'a frappé quand vous avez montré la reproduction de Van Gogh, la peinture, là, dans les mains de ce peintre-là, c'est un outil conceptuel, c'est un outil de lecture du paysage. Et il ne s'agit surtout pas d'aller les dresser les uns contre les autres. Après, il y a des dangers presque inhérents à chaque outil. Hein. Tout outil est une lame à double tranchant, y compris l'hypersensibilité, y compris les formes les plus sentimentales. Mais bon, en même temps, on essaye de discuter. Mais j'espère enfin que la pulsion de connaissance, hein, elle est au principe de ce qui nous réunit ici. Et je ne pense pas que, moi personnellement, je suis souvent très choqué par la façon dont des philosophes ou prétendus tels balayent d'un geste brillant ce qu'on appelle les Lumières, en disant que finalement, la connaissance, c'est automatiquement la volonté de maîtrise. Je ne pense absolument pas que cela se vérifie. Après, l'homme a fait la preuve, plus souvent qu'à son tour et à notre détriment, d'une volonté de maîtrise, d'une immaturité et d'une violence absolument incroyable. Mais là, il y a, un franchissement de palier qu'il me semble que personne s'occupant des arbres n'est prêt à franchir. Mais si on prend le cas de figure de la bonne ville de Nîmes, et qui est vraiment une ville magnifique, avec une stratification historique étonnante. Mais dans cette stratification historique, il y a des choses qu'on respecte et d'autres qu'on ne respecte pas. Il viendrait à personne de faire passer une voie de tramway au milieu des arènes. Par contre, il est venu à l'esprit de la municipalité, et ce n'est pas du tout un discours contre les municipalités en général, de créer à bon prix une ligne de tramway au détriment de l'extraordinaire boulevard de Micocoulier qui fait les deux tiers de l'agrément du centre-ville de Nîmes, en tout cas en été. Et que là, c'est vrai, on est directement dans... Mais là, on voit bien qu'on n'est pas du tout dans la volonté de connaissance. On est dans l'ignorance pure et simple et dans la brutalité. Donc, je crois que tout ce qu'on essaye de dire, c'est effectivement de mieux connaître et de connaître de mieux en mieux. Et ça, il ne peut pas y avoir, de mal à ça. Après que tel outil induise des réflexes de pensée plus que de la pensée, c'est inhérent aux outils.
Merci Jean-Christophe Bailly, merci aussi Francis Allais, Philippe de Réfi et Marie-Paul Bossan qui a organisé ce colloque à Brive au mois d'octobre dernier. Vous pouvez télécharger cette émission pendant une semaine sur notre site franceculture.com. Vous pouvez également nous téléphoner au 01 56 40 36 72 ou nous écrire à Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation, Laurence Chenepin, Anne Gouzon, réalisation, Vincent Abouchard. Bonne fête à tous.